On se retrouve aujourd'hui dans le quartier de Capitol Hill, à l'ombre évidemment du Capitole. La proximité avec la Chambre, le Sénat, fait en sorte que ce secteur évidemment est fréquenté par des élus, des employés politiques. Et on pourrait dire peut-être qu'ici, on se trouve dans un coin un peu plus républicain de Capitol Hill, entre autres parce que de l'autre côté de la rue, évidemment, il y a le siège du Parti républicain.
Oui, et c'est là qu'à la veille des émeutes du Capitole, le 5 janvier, entre 19h30 et 20h30, un individu est venu déposer une bombe artisanale. Il est toujours recherché. Alors l'engin a été découvert par un passant qui a alerté la police et il a été heureusement désamorcé.
Oui, et c'est vraiment un quartier où on croise beaucoup les élus, notamment les républicains, par exemple dans ce restaurant qui est en face de nous, ce restaurant mexicain Tortillacos qu'ils fréquentent beaucoup. Non, il n'y a pas foule en raison de la pandémie. Et d'ailleurs, c'est très étrange parce que en ce moment, à l'heure de l'happy hour, il y aurait, si ce n'était pas la pandémie, beaucoup d'élus, mais aussi des staffeurs, des assistants parlementaires qui seraient installés à ces terrasses en face de nous.
Ouais, et s'il y avait des gens, je ne sais pas pour vous, mais moi, je serais curieux d'entendre ce que les républicains se disent en ce moment.
Ouais,
conversation. Un peu tordue, peut-être.
Conversation depuis l'acquittement de Donald Trump au terme de son procès devant le Sénat. Est-ce qu'on sent les divisions au sein du parti? Dans quelle direction les républicains voudront-ils aller en prévision des prochaines élections de mi-mandat? Pour cette immersion aujourd'hui dans l'univers républicain, il y a avec moi
Anne Corpet de RFI,
Sonia Dridi pour la RTBF,
Raphaël Bouvier-Auclair de Radio-Canada, Grégory Phillips est en congé. En fait, il a presque quitté les ondes depuis le scandale entourant Bruce Springsteen.
Oui, Bruce Springsteen interpellé par la police parce qu'il avait bu un shot de tequila offert par un fan avant de remonter sur sa moto.
Et nous allons parler un peu plus tard avec notre ami Raphaël Grand de la Radio-Télévision Suisse qu'on retrouvera non pas dans les Alpes suisses, mais dans les montagnes de Virginie. Trump a quitté les républicains divisés. C'est l'épisode 35 de Washington DC, le balado podcast des radios francophones publiques. Bienvenue.
And I said, Mr. President, this MAGA movement needs to continue. We need to unite the party. Trump plus is the way back in 2022.
President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day.
Washington DC.
C'est à quelques blocs d'ici que le verdict est tombé samedi dernier en fin d'après-midi, heure de Washington. Donald Trump a été acquitté de l'accusation d'incitation à l'insurrection qui pesait contre lui, en lien évidemment avec l'assaut contre le Capitole le 6 janvier. 7 républicains ont voté avec les 50 démocrates pour la destitution, mais ce n'était pas suffisant pour obtenir l'aval nécessaire des 2/3 du Sénat. En soi, la décision n'était pas surprenante. Évidemment, on s'attendait à un acquittement, mais c'est quand même un procès qu'on a suivi et qui nous a réservé quelques surprises, quelques scènes marquantes?
Oui, alors pour ma part, je m'attendais pas vraiment justement à des surprises. On connaissait l'argumentaire des démocrates et des républicains, mais il y a eu quelques témoignages d'élus marquants qui expliquaient d'autant plus leur immense colère à l'égard de Donald Trump. Par exemple, Jamie Raskin, qui jouait le rôle du procureur pendant ce procès, a enterré la veille du 6 janvier son fils qui s'est suicidé. Il a raconté que sa fille et son beau-fils sont venus avec lui au Capitole ce jour-là pour le soutenir, mais aussi pour être témoin, dit-il, du transfert pacifique du pouvoir, et évidemment, ils ne s'attendaient pas à un tel scénario.
The kids hiding under the desk, placing what they thought were their final texts and whispered phone calls to say their goodbyes. They thought they were going to die.
Il raconte qu'alors que lui était dans l'hémicycle, ses proches se sont retrouvés cachés sous un bureau. Ils ont commencé à appeler en chuchotant leurs amis, leur famille pour leur faire leurs adieux, pensant qu'ils allaient mourir. Lorsqu'ils ont finalement été sauvés, dit-il, il s'est excusé et a promis à sa fille que ce ne sera pas comme ça la prochaine fois qu'elle viendra au Capitole. Et elle lui a répondu qu'elle ne voulait plus jamais revenir. Et là, on l'entend, énorme émotion dans sa voix. Il est tout vraiment des sanglots.
She said, Dad, I don't want to come back to the Capitol.
Ouais, beaucoup d'émotions, effectivement. Bon, évidemment, Jamie Raskin, il était très présent pendant ce procès parce que c'est lui qui était en quelque sorte le procureur en chef envoyé par les démocrates. Mais on a aussi aperçu d'autres élus que, franchement, moi, je ne connaissais pas, je sais
moi
pas
non
pour vous,
plus. Non.
Mais qui pourraient devenir des étoiles montantes du parti.
That is a mob that was sent by the President of the United States
À commencer par Stacy Plaskett, qu'on est en train d'entendre. C'est la représentante démocrate des Îles Vierges. Et c'était vraiment l'une des voix de ce procès. Hein. Alors, c'est la première fois qu'une élue d'un territoire américain et non d'un État fait partie d'une équipe de procureurs dans le cadre d'une procédure de destitution. Et elle est afro-américaine. La seule femme noire présente dans l'hémicycle pendant ce procès, elle a fait une prestation très remarquée comme Joe Negus, représentant du Colorado.
We humbly, humbly ask you to convict President Trump for the crime for which he is overwhelmingly guilty of.
On vous demande humblement, humblement de déclarer Donald Trump coupable pour les crimes qu'il a commis, dit Joe Negus. Lui aussi est afro-américain, il est fils de migrants venus d'Érythrée. C'est le plus jeune procureur de l'histoire dans un procès en destitution, il n'a que 36 ans. À eux deux, Stacy Plaskett et Joe Negus ont porté haut les couleurs des démocrates. Ils ont en tout cas représenté la diversité et la jeunesse que le parti se targue d'incarner.
Et d'ailleurs, les démocrates ont aussi misé beaucoup sur la présentation de vidéos en présentant aux élus des images parfois très choquantes.
Oui, et des images inédites hein, qui ont marqué une partie de l'opinion publique et aussi ces élus, parce qu'avec ces images, certains comme Mitt Romney ou encore le vice-président Mike Pence, eh bien, ont réalisé à quel point ils sont passés très près des émeutiers.
Oui, et d'ailleurs, les avocats de Donald Trump ont accusé les démocrates d'avoir fait des montages, d'avoir manipulé les vidéos, mais en vrai, ils ont fait exactement la même chose. Ils ont notamment monté des extraits de discours des démocrates avec ce mot fight, combat.
They're fighting, or I'm fighting, we're both fighting.
We will fight back. We're not going to just take this lined up.
I'm just going to keep the fight up.
We have to do right now is fight as hard as we can.
Le mot qu'avait prononcé Donald Trump dans ce discours juste avant l'assaut du Capitole, mais les extraits qu'ont choisi les avocats de Donald Trump provenaient parfois de discours qui n'avaient rien à voir.
Donc, présentation assez efficace, plutôt organisée des procureurs démocrates. Quoiqu'à la toute dernière minute, on a senti de la confusion hein, sur la nécessité d'appeler ou non des témoins à la barre. Mais confusion, en tout cas, c'est un terme qu'on peut peut-être utiliser pour décrire, à tout le moins, les premières présentations de l'équipe de défense de Donald Trump.
Ah oui, c'était absolument incroyable. Bruce Castor a été, il faut bien le dire, assez consternant. Hein. D'abord parce qu'il a commencé par expliquer que du fait de la très bonne présentation des procureurs démocrates, il avait dû chambouler sa stratégie de défense.
C'est un beau compliment
quand même. Il est franc.
C'est d'aveu quand même un aveu de faiblesse qui a rendu, paraît-il, Trump furieux.
Oui, oui, Donald Trump, qui n'aime pas justement les aveux de faiblesse, dit-on, était très en colère dans sa villa hein, de Mar-a-Lago en Floride. Il était vraiment très déçu et vraiment pas content de la prestation de Castor.
C'est vrai que c'était une intervention confuse. Hein. Il nous a parlé de la Rome et de la Grèce antique. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à suivre. Bon, il faut rappeler qu'il a été désigné un peu plus d'une semaine avant le début du procès. Ouais. Parce que l'équipe de défense initialement prévue par Donald Trump a claqué la porte après avoir compris que l'ancien président refusait toujours d'admettre sa défaite.
Alors Trump a peut-être été davantage satisfait par son autre avocat, Michael Van Der Veen.
Plus agressif.
Ouais, tout plus à fait. Dans son genre, ouais.
Voilà, mais peut-être un peu plus efficace que Castor, mais il a quand même réussi à faire rire l'Assemblée quand il était question d'assigner des témoins à comparaître.
These depositions should be done in person, in my office. In Philadelphia. That's where they should be done.
Alors, à propos des dépositions de témoins, il précise « Ces dépositions devraient être faites en personne dans mon bureau à Philadelphie, c'est là qu'elles devraient être faites. » Alors là, on entend des éclats de rire, mais il maintient « c'est la règle ».
D'ailleurs, plusieurs ont souligné sa manière assez particulière de prononcer le nom de la ville de Philadelphie, Philadelphia. Oui, c'est peut-être un accent local.
Oui, en tout cas, ça lui a pas plu, hein, ses rires dans l'Assemblée, parce qu'il a fini par dire « après, je ne comprends pas pourquoi vous riez ».
Ah, peu importe les rires, peu importe la performance, les avocats de Donald Trump, qui ont critiqué surtout la procédure, qui ont évoqué la liberté de parole pour défendre le discours de leurs clients, eh bien, ils ont convaincu suffisamment de sénateurs républicains d'acquitter l'ancien président. Avant de quitter Washington pour les sommets de Virginie, où il est en ce moment, notre ami Raphaël Grand, évidemment, a suivi ce procès pour nous. On va en parler avec lui, on l'appelle.
Allô?
Allô?
Salut Raphaël. Salut. T'es où, là?
Allô, vous allez bien? Je suis à Massanutten, en train de faire du ski, pour tout vous dire.
Ça vaut pas les Alpes, je parie.
Alors non, le domaine skiable, c'est pas les Alpes suisses, mais il y a de la neige. Non, c'est pas mal en fait, c'est pas mal.
T'as changé de décor, mais t'as quand même suivi ce procès au terme duquel Donald Trump a été finalement sans surprise acquitté.
Ouais, j'ai évoqué ce procès avec Caroline Fredrickson, elle est prof de droit à l'université de Georgetown à Washington. Caroline Fredrickson, elle a travaillé en fait à la Maison Blanche pour l'administration Clinton. Elle était en fait en charge des relations entre la Maison Blanche et le Congrès, donc elle connaît bien les calculs politiques des élus, notamment au Sénat. Et pour elle, les républicains n'ont pas voté massivement contre Trump parce que...
Ils ont peur. Ils ont peur de les partisans de Trump. Alors pour eux, c'est dangereux.
Alors peur, oui, politiquement, mais aussi peut-être peur pour leur vie, hein, au vu du contexte politique actuel, précise encore Caroline Fredrickson. Reste que ce procès pour elle, c'était avant tout un procès pour les livres d'histoire.
Je pense que c'est pour son administration. C'est vraiment une tache noire. Et je pense que pour un président dans le futur, c'est quelque chose d'éviter. On ne veut pas être dans les livres d'histoire le président le pire.
Et il y a quand même 7 sénateurs qui ont décidé d'aller à contre-courant finalement et de voter en faveur de la destitution. Pour certains, c'était pas nécessairement une surprise. On pense par exemple à Mitt Romney de l'Utah qui avait déjà voté en faveur de la destitution lors du premier procès. Lisa Murkowski de l'Alaska qui a été très critique de Donald Trump. Mais pour d'autres, c'était peut-être une décision qui était un peu plus étonnante.
Ouais, et puis dans la presse, ben les journalistes évidemment leur ont demandé pourquoi est-ce qu'ils ont voté contre Trump. Alors, ces 7 sénateurs vous disent que pour eux, Trump était clairement coupable d'incitation à l'insurrection. Mais quelqu'un comme Bill Cassidy, par exemple, le sénateur de Louisiane, explique que pour lui, il a voté coupable parce que il a voté surtout en pensant à la Constitution, au pays. Et ça, c'est bien plus important que le Parti républicain ou qu'une personne comme Donald Trump. Ben Sasse, dans Nebraska, a plus ou moins la même approche. Il dit que le Parti républicain, ce n'est pas seulement Donald Trump, il a vraiment voté par rapport à la Constitution. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces 7 sénateurs, qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils risquent pas vraiment de grands retours de flamme politique du contre-Trump. Ils ont pas vraiment le risque de perdre leur siège immédiatement. 2 de ces sénateurs ont annoncé qu'ils allaient bientôt quitter le Sénat, en retraite. Certains ont été réélus, rappelez-vous, en novembre, donc ils sont tranquilles pour 6 ans. En fait, il y a que Lisa Murkowski, la sénatrice d'Alaska, qui a vraiment pris un risque, puisque elle, son siège est à nouveau en jeu en 2022. C'est sans doute la plus courageuse.
Lisa Murkowski, qui néanmoins est une sénatrice populaire dans son État en Alaska, mais quand même, il y a eu des conséquences pour ses élus, même s'il n'y a pas un énorme risque politique, et on l'a su très rapidement, parfois dans les minutes, les heures qui ont suivi la décision de voter en faveur de la destitution.
Oui, par exemple, de nombreux membres de partis républicains locaux ont rappelé leur allégeance à Donald Trump. D'ailleurs, Raphaël parlait à l'instant de Bill Cassidy, et bien lui qui a voté pour inculper Trump a été puni par le Parti républicain de Louisiane, hein, c'est le terme que le parti a employé. Dans un communiqué, il déclare qu'il condamne fermement son vote et ils ont voté une motion de censure contre lui.
Et pareil, en Caroline du Nord, hein, Richard Burr a aussi été puni par le parti. Son vote en faveur de la condamnation de Donald Trump a d'autant plus surpris qu'il avait voté contre la tenue du procès, qu'il jugeait donc contraire à la Constitution. Il a réagi en disant que c'était un triste jour pour les républicains de son État. La direction de mon parti a choisi la loyauté envers un homme plutôt que les principes fondamentaux du parti, a-t-il déclaré. Mais Michael Watke, le dirigeant du parti républicain en Caroline du Nord, s'est expliqué sur cette motion de censure.
What we saw coming out of the vote on Saturday across the state of North Carolina, I talked to over hundreds.
Voilà, il dit tout simplement qu'il a rencontré en fait plein de républicains de Caroline du Nord qui étaient choqués par le vote du sénateur Burr et qu'il fallait donc marquer le coup, le punir.
Et même parmi les sénateurs qui ont acquitté Donald Trump, certains se sont quand même fait critiquer.
Oui, ben j'imagine que tu fais allusion à Mitch McConnell, le chef de la minorité républicaine au Sénat, qui pendant 4 ans était le chef de la majorité et qui a vraiment loyalement, fidèlement servi les intérêts de Donald Trump. Alors il a voté pour son acquittement, hein, il jugeait que le procès n'était pas conforme à la Constitution, mais juste après, il a fait un discours très violent, d'une violence même inédite de sa part à l'encontre de Donald Trump.
There's no question, none, that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day.
No question about it.
Il n'y a aucun doute que le président Trump est dans les faits et moralement responsable d'avoir provoqué les événements du 6 janvier, dit Mitch McConnell. Il répète, hein, aucun doute, et il explique que les assaillants avaient la ferme conviction d'agir pour le bien de leur président et que c'était à cause de ses mensonges et des théories conspirationnistes qu'il avait véhiculées. Et surtout, Mitch McConnell a ajouté que Donald Trump pourrait être tenu responsable devant la justice civile. C'était presque une menace, en fait.
We have a criminal justice system in this country. We have civil litigation. And former presidents are not immune from being accountable by either one.
Oui, on a l'impression que Mitch McConnell a envie d'être un peu des deux côtés de l'histoire. Hein. Il n'a pas pris de risque, il est très ambigu, donc il est à la fois du côté des républicains qui ont soutenu Trump au Sénat et de l'autre côté de ces mêmes républicains qui critiquent l'ancien président. Vous avez vu passer le communiqué de Donald Trump? Vous
l'avez ah ouais.
Vu
ah ouais, ouais, hier.
On ne peut pas le louper.
Quatre pages.
Alors, Trump communique avec les journalistes par communiqué puisqu'il n'a plus de compte Twitter. Par contre, précisons que le ton Trump est resté hein, dans les communiqués.
Ça,
il traite... Mitch McConnell, je ne sais pas comment vous l'avez traduit sur vos antennes, mais il traite Mitch McConnell d'homme politique maussade, austère et sans sourire. Je ne sais pas si vous avez une autre traduction.
Ouais, moi j'ai dit renfrogné, moi... j'ai dit escroc politique même.
Et encore, selon Politico, ouais, il s'est calmé parce que dans une première version, il parlait même du double manteau de Mitch McConnell.
Bon, en tout cas, il y va pas de main morte. Hein. Donald Trump appelle les républicains à se retourner contre leur chef au Sénat, Mitch McConnell. Et il dit que le parti républicain ne peut pas gagner et être respecté avec ce Mitch McConnell. Il dit même regretter avoir soutenu Mitch McConnell dans sa campagne de réélection en novembre dans le Kentucky. Donc on peut dire que l'union politique entre Donald Trump et Mitch McConnell qui avait prévalu hein, ces quatre dernières années a un peu volé en éclats ces dernières semaines. La guerre est déclarée.
Et c'est inquiétant pour le Parti républicain puisque Donald Trump précise qu'il soutiendra lors des primaires en vue des sénatoriales de 2022 les candidats qui se présenteront pour défendre sa politique de l'Amérique d'abord face à des républicains, disons, bon temps.
Alors que c'est clair que pour Mitch McConnell, l'avenir du parti n'est pas lié à celui de Donald Trump, mais on le voit, tu y fais mention, hein, il y a des divergence au sein de ce parti-là. Il y a certains, dont Lindsey Graham, qui croient en fait que l'avenir passe par Donald Trump.
Non, mais alors Lindsey Graham, c'est la girouette, il est 100 fois ni loi.
Ouais, régulièrement d'opinion.
Oui, mais il a prouvé depuis le début du mandat de Donald Trump à quel point il était opportuniste. Lui, cet ancien critique de Trump qui était proche du défunt sénateur McCain, est aujourd'hui prêt à tout pour se faire réélire ou alors faire marcher ses levées de fonds. Il a déclaré sur Fox News il y a quelques jours, je sais que Donald Trump peut être dur à gérer, mais c'est le seul espoir du Parti républicain. Donc c'est pour ça que Graham continue à être derrière Trump coûte que coûte. Il continue de le mousser. D'ailleurs, il a déclaré que Lara Trump, la belle-fille de Donald Trump, représentait l'avenir du pays.
Lara Trump qui pourrait se présenter au poste de sénatrice en Caroline du Nord, semble-t-il.
Oui, et pour terminer hein, sur l'état d'esprit de Lindsey Graham, je trouve qu'il y a une anecdote dans la biographie de John Brennan qui est sortie récemment, l'ancien directeur de la CIA, qui le résume bien. Il raconte qu'un jour, il a entendu un discours de Graham dans l'hémicycle où il critiquait fortement Obama, qu'il s'en prenait aussi à Brennan. Et lorsque Graham est sorti, il a lancé à Brennan « Oh, ne faites pas attention à ce que je dis dans l'hémicycle, ça veut rien dire, c'est juste de la politique ».
En tout cas, les sondages semblent donner raison à Lindsey Graham sur l'humeur de la base républicaine. Écoutez, il y a un sondage YouGov The Economist qui a demandé aux républicains qui était le plus grand, le meilleur président à leur avis. 36% ont dit Donald Trump, 18% Ronald Reagan et 13% seulement pour Abraham Lincoln. On voit donc la popularité qu'a toujours Donald Trump au sein de la base du parti.
Oui, mais alors il faut préciser quand même que depuis ce procès en destitution de Donald Trump, il y a beaucoup de membres du Parti républicain qui rendent leurs cartes. J'ai entendu tout à l'heure sur NPR à la radio en venant ici qu'en Caroline du Nord, il y avait 15 000 membres du parti qui avaient rendu leurs cartes après l'acquittement de Donald Trump.
Je me demande d'ailleurs si ces cartes, quand on les renvoie, elles arrivent ici au siège du Parti républicain. On verra bien la direction que décidera de choisir le Parti républicain en vue des élections 2022. On verra si s'associer à Donald Trump aidera le parti à remonter la pente. Et parlant de pente, Raphaël, on te laisse retourner au ski.
Quelle transition, bravo!
C'est magique.
Bien huilé.
Bon, il y a 5 pistes à Massanutten, donc j'ai vite fait le tour hein, pour tout vous dire. Je ne suis pas perdu non plus au fin fond des Alpes suisses. Mais peut-être juste sur ce que vous disiez au terme de ce procès, j'ai vu passer une analyse qui je trouvais assez juste. Joe Biden, vous savez, quand il parle en tant que président, il dit « Je suis ce président qui veut reconquérir l'âme de l'Amérique ». Au terme du procès en destitution, on a quand même l'impression que Trump a déjà réussi à conquérir l'âme du Parti républicain. Et le Parti républicain, c'est quand même presque une bonne grosse moitié des États-Unis, des millions de personnes.
Washington, D.C.
Nous sommes toujours à l'est du Capitole, dans un quartier où, en temps normal, on pourrait croiser des personnalités républicaines.
Et des démocrates. Hein. Par exemple, la jeune élue Alexandria Ocasio-Cortez, elle habite là, juste de l'autre côté du pont. Et donc, ouais, elle rentre souvent à pied depuis le Congrès.
Et donc, ils ont leurs adresses clairement ici, mais ailleurs en ville aussi. Je peux vous dire qu'il y a quelques semaines, je profitais d'une des belles terrasses de mon quartier, donc plus dans le nord-ouest de la ville, et j'ai croisé le leader de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.
Il mangeait quoi?
Ah, je ne sais pas ce qu'il mangeait, mais je peux vous dire qu'il était à l'intérieur du restaurant. Moi, j'étais à l'extérieur, mais il était à l'intérieur en compagnie de deux autres sénateurs démocrates.
Avec masque?
Sans masque.
Ah. C'est moyen pour quelqu'un qui parlait d'exemplarité. Enfin bon, il faut dire que tous les sénateurs sont vaccinés maintenant, je crois.
Alors, parlons-en des démocrates, justement, et revenons au procès. Je suppose qu'ils auraient évidemment espéré une autre finale, une destitution de Donald Trump. Mais bon, maintenant que ce procès est terminé, est-ce qu'ils veulent rapidement passer à autre chose? C'est quoi les échos dans l'entourage de Joe Biden, Sonia?
Oui, depuis le début, hein, les démocrates veulent absolument que ce procès ait lieu justement pour l'exemple, mais ils sont aussi très pressés de passer à autre chose pour que le Sénat puisse se concentrer sur l'agenda de Joe Biden, notamment le plan de relance. Et d'ailleurs, le démocrate Joe Biden a lui réagi après l'acquittement de Donald Trump en disant que sur le fond, l'accusation n'était pas contestée, qu'il y a quand même plusieurs sénateurs républicains qui ont rompu les rangs, et ça, c'était du jamais vu, hein. 7 sénateurs qui votent pour condamner un président qui est de la même couleur politique qu'eux. Et puis, il a eu cette phrase sur Donald Trump.
For 4 years, all that's been in the news is Trump. The next 4 years, I want to make sure all the news is the American people.
Biden, qui, lors d'une réunion publique, un town hall, déclare « Ces 4 dernières années, les médias n'ont fait que parler de Donald Trump. Je veux faire en sorte que pendant les 4 prochaines années, on parle des Américains ». Et il finit en disant « J'en ai marre de Donald Trump ».
Et il a parlé de Donald Trump aussi en disant « The other guy
ouais, », l'autre type. Gars. Ouais, le message était clair en tout cas. C'est vrai qu'on sait que l'administration veut qu'on se consacre à autre chose, que par exemple son projet de relance économique très ambitieux soit adopté le plus rapidement possible par le Congrès. Et le procès évidemment consommait beaucoup de temps dans l'horaire des sénateurs.
Oui, ça a duré une semaine entière, enfin du mardi au samedi soir, et l'activité des parlementaires était quasiment à l'arrêt pendant cette semaine. Donc en fait, aucune loi n'a encore été votée. Il y a eu juste les confirmations des membres du cabinet et ce procès. Et tout va commencer maintenant, mais on entendra encore parler du 6 janvier, hein, parce que Nancy Pelosi a lancé une commission un peu sur le modèle de la commission qui avait lieu après les attentats du 11 septembre pour enquêter à nouveau sur cette insurrection du Capitole.
Et il suffit de toute façon de s'approcher du Capitole pour constater qu'il y a toujours d'impressionnantes barrières de sécurité. Juste à côté de nous, vous le voyez, là, il y a des barbelés, il y a des membres de la Garde nationale.
Qui sont encore déployés.
Clairement, on n'a pas fini de parler de cet épisode du 6 janvier. Comme quoi, ce chapitre-là n'est peut-être pas entièrement terminé.
Y compris pour Donald Trump, hein, parce que, comme le rappelait Mitch McConnell, il peut être encore tenu responsable devant la justice civile et il n'est pas exclu que des procédures aboutissent à son encontre.
Donc, chapitre pas encore terminé. Mais pour la grande famille de Washington DC, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre aujourd'hui, les amis. Vous savez, on vous a dit que Grégory était absent en raison du scandale de Springsteen. C'est vrai qu'il aime beaucoup Springsteen, mais il aime beaucoup aussi sa famille, notre ami Grégory.
Oui.
Et il y a un nouveau membre qui s'ajoute à sa famille aujourd'hui. C'est la raison de son absence.
Le petit Astor est arrivé. Bienvenue, Astor.
Bienvenue, Astor.
Toute la famille,
à la famille
va bien. On salue le papa, la maman. Et c'est tout pour cet épisode de Washington DC, le balado podcast des radios francophones publiques. Suivez-nous sur Twitter et on vous dit à bientôt.
À bientôt. À bientôt.
Au revoir.
Washington DC avec
Anne Corpet, RFI,
Sonia Dridi, RTBF,
Raphaël Grand sur les pistes de ski à Massanutten pour la radio-télévision suisse,
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Réalisé par
Alexandre Davoine.